J'aime beaucoup faire de la photo depuis très longtemps et je trouve que le plus compliqué avec l'image, c'est de montrer ce qu'on ne voit pas à l'invisible. Et depuis longtemps aussi, je m'étais mis à écrire des textes qui racontent ça. Et alors qu'on ne pouvait plus voir que ce lien incroyable de communion qu'on a au quotidien ou le dimanche avec les paroissiens, on ne pouvait plus le vivre, je me suis dit qu'il était plus simple d'écrire à des gens que de leur montrer par une vidéo ou par une messe filmée ce qu'on essayait de vivre. D'autant plus qu'il se trouve que j'habite seul dans mon presbytère et que cette messe filmée aurait donné un prêtre seul face à sa caméra qui n'était pas le bon signe pour moi de l'essentiel. Je voulais garder le lien, j'ai écrit tous les jours, comme ça venait, j'étais bloqué comme tout le monde, mais surtout je voulais garder un lien qui n'oublie pas l'essentiel, et l'essentiel est un peu invisible pour les yeux, comme dit celui qui a un peu repiqué l'idée à la Bible, Saint-Exupéry.
Vous avez la chance d'être curé d'une paroisse au bord de la mer. On ressent dans vos messages beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'émerveillement pour la beauté de la nature, la beauté du ciel et la beauté de la mer, bien sûr. Est-ce que devenir chrétien, ça passe d'abord par une conversion du regard, avant même de parler d'actes ?
Je suis sûr que la beauté ouvre en nous des espaces un peu infinis dans lesquels on peut vivre la rencontre du Seigneur. On peut le rencontrer partout parce qu'il est assez formidable pour cela. Mais c'est vrai que tout d'un coup, dans la contemplation de la beauté, il y a quelque chose qui nous recentre vers le cœur, vers la rencontre du Christ. Et ça, j'y tiens pas mal. Ça se joue aussi, je trouve, dans l'écriture, dans la photographie. On a même la chance ici, là, tous les vendredis soirs de l'été, de célébrer au soleil couchant sur un petit bout de plage très désertique. Et là encore, les gens sentent comment tout sonne au même rythme. C'est peut-être ça qui est essentiel dans ce lien à la beauté. Après, la parole de Dieu est en fait une vraie beauté aussi. La beauté d'une Eucharistie, quand elle est célébrée de manière juste par toute une assemblée, résonne tout aussi bien. Je ne la mettrai pas que sur des critères esthétiques, mais probablement sur un lieu de contemplation, de déplacement intérieur, et effectivement qui invite à ne pas rechercher la beauté pour elle-même, mais à se demander ce qu'elle invite à vivre comme lien, comme relation. Donc oui, il y a un déplacement.
Alors justement, vous écrivez que ce qui fonde la communauté chrétienne, c'est d'abord l'écoute mutuelle. Alors est-ce que ce temps de distance physique a été paradoxalement une occasion d'apprendre à doser la relation avec chacun et à respecter chacun dans sa vulnérabilité, dans son propre rythme ?
Alors c'était plutôt une catastrophe, en fait. Catastrophe, parce que au lieu d'un moment où chacun vient comme il est, chacun vient avec ses attentes, ses prières, sa présence, sa foi, ses doutes, et du coup compose une communauté où non seulement on écoute le texte, mais sans faire exprès, on s'écoute, on se parle sans se parler, on s'accueille sans le faire toujours explicitement, on a été obligé de rendre tout cela explicite, de le manifester. Et de faire ça de manière un peu percussive, même d'ailleurs avec le piège de nous prêtres, qui avons pris la parole de manière très descendante, et en monopolisant la parole. Alors il a fallu le manifester, donc oui, il y a quelque chose qui s'est senti d'un lien qu'on a pu manifester, mais on a dû manifester ce qui d'habitude se faisait sans forcément qu'il soit explicite. Quand je me lève pour dire le credo chaque dimanche, le frère qui est à côté de moi peut être marqué par ce simple geste que pourtant je faisais avec beaucoup de questions, mais qui sera une expérience fondamentale de sa vie. Il y a bien une écoute absolument nécessaire dans nos liturgies, même si on ne s'en rend pas compte. Ce qui a été fort pendant ce temps, c'est que c'est devenu palpable. Ce qui a été une question, c'était comment ne pas surcharger cette écoute-là. Mais il faut absolument qu'on retrouve ce sens du frère qui nous fait prendre soin de lui, lui permettre de nous écouter et réciproquement nous de l'écouter. Ça, c'est important. Et le confinement a été très violent parce qu'il a tout réduit à des intentions délibérées quand d'habitude il se passe tellement de choses dans le secret de nos cœurs et dans le secret de nos communautés.
Alors vous évoquez dans votre ouvrage, et on l'a tous vécu, hein, des moments de peur, d'agressivité, même comment aujourd'hui réparer ce lien humain, ce sens du contact physique aussi dont on a besoin, mais qui a été blessé par cette période de confinement.
Je suis très inquiet, parce qu'aujourd'hui encore les gestes ne sont pas vraiment possibles, ou ils demandent des prudences très importantes, qui sont nécessaires, hein, je l'entends bien, mais du coup il manque énormément la médiation du corps. On a aussi profondément blessé pendant le confinement par notre attitude, en interdisant plus de 20 personnes à une inhumation, par exemple, pas mal de gens. Il y a même une mère de famille qui n'a pas pu aller à l'enterrement de son propre fils. Je crois qu'il va falloir qu'on renouvelle notre lien à la miséricorde, à la charité fraternelle, pour construire à nouveau à partir de ces blessures-là. Je n'ai pas les moyens, comme chrétien, d'aller résoudre les problèmes ou de résoudre les blessures. Mais je peux choisir de les envisager, de les prendre au sérieux et de vouloir, avec tous les chrétiens, rebâtir nos communautés, rebâtir nos liens, sans vouloir de manière si délibérée tout faire. Je crois que c'est impossible. Ça pourrait même devenir dangereux parce que nos blessures elles-mêmes, depuis le confinement, ont évolué. Nos peurs elles-mêmes sont encore en mouvement. Elles sont encore sollicitées ces jours-ci. Et ça demande de redoubler de délicatesse comme le Christ le fait avec nous. Parfois, c'est avec une parabole qu'il nous sort de nos problèmes. Il faudra sûrement que nos communautés travaillent du côté de la parabole, tout autant que de la délicatesse renouvelée. Je ne sais pas encore comment on va faire. Ça demande beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on va beaucoup s'y perdre, mais je crois que c'est important.
Alors, dans vos messages, vous avez des lignes bouleversantes sur vos visites en EHPAD. Vous parlez des personnes âgées avec beaucoup de tendresse. Vous évoquez même la figure d'un prêtre centenaire qui est décédé pendant le confinement et qui était resté près de 70 ans dans la même paroisse. Ouais. Peut-on dire que les plus anciens nous évangélisent par leur lenteur en nous faisant redécouvrir l'art de la contemplation ?
Je ne sais pas si c'est par leur art de la contemplation. Ce qui est sûr, c'est que à devoir faire une homélie chaque semaine en EHPAD, ça a désactivé en moi la facilité de dire « vous n'avez qu'à faire ça, être chrétien c'est faire ça, se bouger ainsi ». Parce que de fait, à certains âges de la vie, on a moins de capacités, de choix et de rencontres. Et pourtant, je suis persuadé que le Seigneur a un appel à la conversion à chacun. Je ne suis pas sûr que ce soit que la contemplation. Mais je suis certain que c'est une vraie question de ne pas résoudre la sainteté à une forme d'activisme spirituel, mais bien un lieu plus subtil au milieu de nos fragilités, de nos violences intérieures, de nos liens possibles, de nos impossibles aussi. Et à cet endroit-là se vit vraiment une expérience de foi. Alors du coup, j'oserais pas dire ce qu'ils m'apprennent. Je sais ce qu'ils désactivent en moi comme tentation d'activisme. Parce que ma grande difficulté, du coup, c'est que je ne sais toujours pas à quel endroit il faut qu'ils soient et que moi je sois avec eux. Et c'est peut-être là où c'est bon d'ailleurs, de ne pas être capable de le savoir et du coup, avec la parole de Dieu, de le chercher avec eux, texte après texte, messe après messe.
Vos réflexions sont ancrées dans les textes bibliques, mais vous faites aussi référence à des poésies ou à des chansons de la culture populaire et ça fait un petit peu penser à ce que le pape François lui-même fait parfois dans ses voyages, notamment en Amérique latine. Cette façon de relier la vie spirituelle à la culture au sens large, est-ce que c'est une façon aussi de se décloisonner ou de se déconfiner mentalement pour que la foi irrigue la vie de chaque personne, pas seulement une heure par semaine, mais dans tous ses actes et toutes ses consommations, même culturelles?
De fait, moi j'aime beaucoup prendre un peu de distance, relier les choses, parce que l'évangile profondément irrigue toute ma vie. En même temps, je suis conscient que le texte que j'écrivais jour après jour était profondément un texte chrétien, marqué par la spiritualité, la foi, la recherche. Et j'ai du mal à dire à quelqu'un qui serait hors de la foi, lis ça et tu verras, tu vas t'y retrouver. Non, il va y retrouver quelqu'un, une communauté qui cherchait son Seigneur et qui le cherchait pas uniquement dans la sacristie ou sur l'autel, qui le cherchait partout. Alors oui, de temps en temps, j'ai écrit un titre qui donnait « Le lundi au soleil » où j'ai parlé du scotch que mes neveux, les enfants de ma sœur, ont mis sur le téléphone pour qu'on entende moins bien et ça m'a pas mal parlé de ma recherche de Dieu. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui résonnent avec le Christ dans notre monde puisqu'il y est présent. Et c'est peut-être là qu'on peut se retrouver dans quelque chose de juste. L'autre dimension, pour moi, c'est que la foi, comme tous les actes, avant d'être un acte de parole, est surtout d'une écoute. Et si on sait dire avec d'autres qu'on écoute la même chose qu'eux, mais qu'on y entend une autre profondeur que le Christ peut-être nous invite à y trouver, alors il y a un nouveau lieu de dialogue parce qu'on a écouté ensemble, et pas juste quelque chose que j'avais besoin de vous dire. Et je crois que le pape François le fait beaucoup aussi, d'écouter ceux qui sont autour de lui. Ça se sent très fort.